Radio Prague, les informations.
Le Sénat exhorte le gouvernement à signer le pacte budgétaire européen. Le chômage est repassé en janvier au-dessus de la barre de 9%. La bourse de Prague évacuée à cause d'une fuite de gaz. Le Sénat chambre haute du Parlement tchèque a recommandé au Premier ministre Petr Nečas à revoir son refus de signer le pacte budgétaire européen qui doit aider la zone euro à sortir de la crise. Selon cette résolution imposée au Sénat par le Parti social-démocrate, malgré la résistance du Parti civique-démocrate, formation principale de la coalition gouvernementale, le gouvernement devrait ouvrir sans délai le processus de ratification du pacte. Le taux du chômage en République tchèque en janvier s'est élevé à 9,1%. Il s'agit d'une augmentation de 0,5 points par rapport au mois de décembre. La barre de 9% a de nouveau été dépassée pour la première fois depuis mars dernier. Près de 535 000 personnes étaient donc sans emploi. Le Sénat tchèque n'a pas donné son aval à la candidature du président de la Cour municipale de Prague, Jan Svaček, au poste de juge de la Cour constitutionnelle. La candidature a été présentée par le président Václav Klaus. Jan Svaček a obtenu 38 des 79 voix, ce qui n'était pas suffisant pour son élection. Le projet de loi sur l'élection du président de la République au suffrage universel direct a été critiqué au Sénat tchèque. Jusqu'à présent, le président tchèque était élu par les deux chambres du Parlement. Selon le sénateur Petr Pidhart, l'élection présidentielle au suffrage universel est une intervention risquée dans la constitution tchèque et ne devrait être adoptée qu'après une réflexion sérieuse. La bourse de Prague a dû être évacuée pendant 2 heures dans l'après-midi de ce mercredi à cause d'une fuite de gaz. 250 employés de la bourse ont dû quitter l'édifice situé rue Rybna dans le centre historique de la capitale. Après la réparation de la panne, les employés ont pu regagner la bourse. Personne n'a été blessé. Les députés ont voté ce mercredi en faveur de l'annulation de l'immunité à vie dont disposent jusqu'à présent les législateurs et les juges de la Cour constitutionnelle. Cet amendement, fruit du travail en commun de l'ensemble des partis politiques représentés à la Chambre des députés, devrait entrer en vigueur en 2013. Pour cela, le texte doit toutefois encore être approuvé par le Sénat. 50 ans se seront écoulés le 10 février depuis la mort du peintre et graveur Max Chwabinski. L'artiste a laissé une trace profonde dans les arts plastiques tchèques de la première moitié du XXe siècle. Il est né en 1873 dans la ville de Kroměříž en Moravie. Cet éternel amoureux de la femme et de la nature est l'auteur de toiles monumentales, de portraits et de tableaux intimistes. Il a été cependant aussi un véritable virtuose d'art graphique. Ses gravures aux fortes xylographies et aquatintes en font un des plus grands maîtres tchèques de cet art. Météo. Comme un peu partout en Europe, le temps reste encore très froid en République tchèque. Le ciel est un peu plus dégagé et les chutes de neige à caractère local sont très rares. Ce mercredi, les températures ont varié dans la journée entre moins 10 et moins 4 degrés pour les maximales. Jeudi, le ciel en Tchéquie sera couvert avec des chutes de neige par endroits. Les températures maximales s'échelonneront de moins 8 à moins 4 degrés. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter qui cède maintenant le micro à Magdalena Hrozinková.
Les événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce programme préparé par la rédaction française de Radio Prague. À la une de l'actualité, la balance positive du commerce extérieur tchèque qui est en nette hausse par rapport à 2010. Les détails dans un instant. Nous parlerons ensuite des films tchèques et slovaques présentés dans le cadre du 34e Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. C'est le plus important rendez-vous du film court dans le monde. Dans la rubrique historique de ce mercredi, suite et fin de l'entretien réalisé avec Anita Rindt, ancienne correspondante du Monde, auteur d'un ouvrage intitulé « Ainsi étions-nous » sorti aux éditions Gausen en 2010. Magdalena Hrozinková vous souhaite une excellente écoute. En 2011, le commerce extérieur de la République tchèque a enregistré un excédent commercial de près de 191,4 milliards de couronnes. Ce sont 70 milliards de plus que l'excédent obtenu en 2010. Ces chiffres ont été dévoilés ce mardi par l'Office tchèque des statistiques, Paul Bauer.
Face au recul des résultats du commerce extérieur tchèque pour le mois de novembre 2011 par rapport aux chiffres de novembre 2009, le Premier ministre Petr Nečas et le ministre de l'Industrie et du Commerce Martin Kuba ont annoncé le lancement d'une nouvelle stratégie de politique économique visant à soutenir le commerce extérieur tchèque. Le Premier ministre a ainsi annoncé lors d'une conférence de presse donnée le 6 février que le gouvernement prendrait très prochainement une série de mesures afin de réduire la dépendance du commerce extérieur tchèque vis-à-vis du marché européen et d'accroître les exportations vers les marchés des pays émergents. Ce mardi pourtant, l'Institut tchèque de statistique vient de rendre public les chiffres du commerce extérieur de la République tchèque et annoncé que pour l'année 2011, un accroissement de plus de 30% de l'excédent commercial par rapport à celui de 2010. Une surprise accueillie très positivement par la classe politique et les investisseurs du pays, l'analyste de la banque commerciale tchécoslovaque Petr Dufek rappelle que ces résultats sont dus notamment à la bonne santé du secteur automobile tchèque qui, malgré la période de crise, a su s'imposer sur le marché européen. On l'écoute.
Il est curieux de remarquer que la demande européenne régresse, que le secteur automobile connaît un recul de ses ventes et qu'au contraire, les automobiles tchèques s'exportent de plus en plus en Europe, gagnant ainsi des parts de marché. Dans ce contexte de crise, ces résultats sont particulièrement bons.
Selon les spécialistes, les chiffres du commerce extérieur sont les meilleurs résultats obtenus depuis 1993 et donc la conséquence des investissements étrangers dans le pays depuis ces 15 dernières années. Petr Dufek.
Ce sont également les résultats de la qualité du travail dans le pays. La République tchèque est toujours attractive pour les investisseurs qui ont la possibilité de produire ici. Nous disposons d'une main-d'œuvre de qualité, d'un relativement bon système d'éducation ainsi que de bonnes infrastructures de transport.
La baisse de la demande dans l'Union européenne durant l'année 2012 devrait toutefois avoir des conséquences négatives sur les prochains résultats annuels du commerce extérieur tchèque. Selon David Marek de la société de conseil en finance Patria, le commerce extérieur tchèque est actuellement le seul instrument de la croissance économique du pays et plus d'un tiers des échanges commerciaux est absorbé par le voisin allemand. Alors que la croissance allemande avait atteint près de 3% en 2011, faisant du pays le moteur économique de l'Europe et en particulier de la République tchèque, les prévisions de la croissance du PIB pour l'année 2012 dans ce pays ont été revues à la baisse. Berlin table d'ailleurs sur une croissance annuelle à 1,1%. C'est la raison pour laquelle David Marek rappelle que si les résultats publiés par l'Institut tchèque des statistiques sont un signe positif de la stabilité économique du pays, en période de crise, il est nécessaire de rester prudent face aux perspectives d'avenir. On écoute David Marek.
Je resterai prudent. Les chiffres de l'Allemagne sont un signal suffisamment clair pour ne pas nous réjouir de manière prématurée. Je pense en outre que la baisse du taux de croissance observée au troisième trimestre s'est poursuivie au dernier trimestre de 2011. Elle devrait sans doute se poursuivre au premier trimestre de cette année.
Et de conclure, je cite que malgré les bons chiffres publiés ce mardi, une hirondelle ne fait pas le printemps.
Pour la troisième année consécutive, la République tchèque était représentée au 34e festival du court-métrage et au marché du film court, deux événements qui se sont tenus du 27 janvier au 4 février à Clermont-Ferrand. Le film tchèque d'animation Graffiti Tiger du réalisateur Libor Peksa a été présenté en sélection officielle du festival. Un autre film d'animation tchèque, Le jardinier qui voulait être roi, et qui sort en salle en France à la mi-février sur 60 copies, a également été projeté. Le critique de cinéma Michal Prochaska nous parle plus en détail de la récente édition du plus important festival du court-métrage dans le monde auquel il assiste régulièrement.
L'ambiance de ce festival est incroyable. On a l'impression qu'à Clermont-Ferrand, c'est possible toujours de vivre des moments magiques. Ça veut dire que les gens qui participent à ce festival milite pour le sort du court-métrage, du cinéma expérimental, du cinéma hors des formats de distribution. Ça veut dire qu'on se plonge tout à coup dans un milieu complètement amical où tout le monde est passionné par le cinéma, Il y a vraiment le queue de gens qui attendent, de, je sais pas, une quart d'heure, une demi-heure à entrer dans la salle. Il y a le marché, qui s'appelle Marché à Clermont-Ferrand, où il y a presque 4000, 5000 professionnels de tout coin de l'Europe, du monde, du court-métrage.
Le centre tchèque du film a présenté aussi le cinéma tchèque dans le cadre de ce marché. Est-ce qu'il y avait de l'intérêt pour le cinéma tchèque?
Le centre tchèque, comme d'ailleurs chaque année depuis, je crois, 2009, tient un stand là-bas au marché, où il y a aussi d'autres initiatives présentes, comme d'ailleurs le festival Anifest. Chaque année, il présente aussi une compilation des films d'étudiants, donc le film Graffiti Tiger de Libor Pixa était aussi sélectionné pour la compétition justement de cette année.
Pourriez-vous en dire plus justement sur ce film Graffiti Tiger?
Le film Graffiti Tiger est un film de techniques combinées. Ça veut dire que c'est à la fois fondé sur la prise de vue réelle et avec les effets d'ordinateur, de CGI. Il raconte une histoire d'un tigre de graffiti qui se balance autour des murs pragoises, qui perd son autre tigre, son amour, et il se met à la recherche de ce tigre perdu. J'aimerais dire que ce film pourrait ressembler un petit peu le travail d'un artiste italien très très connu qui s'appelle Blue, qui a pas mal travaillé avec l'animation de graffiti, sauf que ici le film sera basé vraiment sur le travail d'ordinateur, donc c'est une approche un petit peu différente.
Et quel a été en fait votre coup de cœur dans la sélection de cette année?
J'aimerais peut-être mettre en valeur un autre film sélectionné dans la compétition du festival, qui a même remporté un prix. C'était le prix de jeunesse, à vrai dire. C'était le film slovaque de Ivana Laučíková, qui est une productrice et une réalisatrice à la fois de Bratislava, qui a réussi, après des années, à vraiment sortir de ce cadre du cinéma slovaque, un petit peu quand même marginalisé par la manque de sources, par la manque de soutien. Elle a réussi à remporter un prix qui est vraiment un vrai succès international pour notre région. Aussi, du coup, le film qui s'appelle The Last Bus, son film va être diffusé dans plusieurs télés européennes. Et ça a vraiment suscité beaucoup d'attention en France dans le cadre de ce festival-là.
C'était le critique Michal Procházka qui a assisté au 34e Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. Comme annoncé au début de cette émission, dans la rubrique historique de ce mercredi, nous vous proposons la seconde partie de l'entretien réalisé avec Anita Rindt, ancienne correspondante du Monde, auteur d'un ouvrage intitulé « Ainsi étions-nous » sorti aux éditions Gaussen en 2010. Dans la première partie de cet entretien, Anita Rindt avait évoqué les origines de sa famille en Tchécoslovaquie, sa naissance en France, le temps du bonheur des vacances d'été lorsqu'avec son frère et sa sœur, il se rendait à la maison familiale de Kaplice. Puis la guerre, l'occupation et la survie miraculeuse d'Erind à la déportation après avoir vécu caché pendant toute la durée du conflit. La famille restée en Tchécoslovaquie n'a pas eu cette chance. Et très vite, Anita Rindt s'est donnée pour objectif de retrouver les traces de ses proches exterminés par la fureur nazie. On écoute Anita Rindt au micro d'Anna Kubishta.
Chapitre de l'histoire. Anita Rindt, à 14 ans, finalement, vous décidez, plus ou moins consciemment, de mener un jour une quête pour retrouver les gens de cette famille. Alors cette quête, elle commence à la fin des années 70. Votre mari et vous-même êtes en poste à Vienne à ce moment-là, entre 74 et 79, si je ne me trompe pas.
Oui, 1980, on est parti.
Ou 1980, voilà. Oui. Vous êtes tous les deux en poste à Vienne justement, vous-même vous intéressez à la condition des femmes en Europe de l'Est, hein, en tant que journaliste. Alors après des difficultés avec l'administration communiste tchécoslovaque, vous allez quand même réussir à vous rendre en Tchécoslovaquie, mais en tant que touriste. Alors c'est un peu les premières retrouvailles en fait avec votre pays d'origine.
Absolument, c'est 40 ans après quasiment, parce que j'étais en 79 et j'avais quitté en 38 petite fille. Et donc j'ai obtenu un visa touristique, alors que les Tchèques, le consulat tchèque à Vienne me refusait toute entrée en Tchécoslovaquie en disant personne ne parle français, c'est pas la peine d'y aller. Et mon mari était lui aussi interdit, il avait plus de visa parce qu'il s'occupait de la charte 77 et des dissidents.
Donc vous n'étiez pas forcément des personnes que les communistes accueilleraient facilement, voilà.
Non, pas du tout. Et mon mari a obtenu un visa parce qu'il y a eu une délégation du président de la République, Rudolf Kirchschläger, qui est parti à Prague et qui a mis Manuel sur la liste. Donc c'est grâce à eux qu'il a de nouveau obtenu un visa. Lui, en juin 79, ma fille Laurence et moi, nous avons obtenu un visa touristique alors que Manuel, lui, il a eu un visa de journaliste. Donc, on est arrivé en Tchécoslovaquie. Moi, on est parti en voiture de Vienne parce qu'on voulait faire tout ce trajet. Et on a fait des kilomètres, des centaines de kilomètres dans le pays.
Et alors, quel a été le fruit de vos recherches à ce moment-là? Puisque c'est là que vous vous êtes vraiment lancé, finalement, dans cette quête.
Absolument, parce que quand j'avais exactement 6 noms. Donc, les deux sœurs de maman, le mari de l'une d'elles, deux oncles et la meilleure amie de maman. Donc la première chose qu'on a fait le lendemain de notre arrivée, à l'époque c'était sous le régime communiste, c'est d'aller à Maïslova 18, dite la mairie juive, la maison communautaire juive, où j'ai vu le secrétaire général de la mairie, et je ne parlais pas le tchèque, et donc j'ai parlé moitié anglais, moitié allemand, et j'ai demandé quelqu'un qui pourrait m'aider à retrouver des gens morts de ma famille dans les camps de déportation. Et donc le monsieur m'a reçu très gentiment et m'a tout de suite mis en contact avec une vieille dame octogénaire, une merveille des merveilles qui était chargée des archives. Elle est morte d'ailleurs un an après, en 1980. Elle s'appelait Vera Gruberova. Je suis allée au deuxième étage, il y avait la cartothèque, donc les archives de la maison juive. Je suis arrivée devant la porte, je suis restée pétrifiée. Maintenant ça a changé, mais à l'époque les murs étaient comme des placards de notaire, si vous voulez, avec des tiroirs, des milliers de fiches. Je suis restée pétrifiée sur le pas de la porte. J'ai demandé à Vera Gruberova si ma fille pouvait m'accompagner, parce que j'étais très angoissée, et elle m'a dit oui. Et puis je lui ai donné les noms, elle a commencé à m'aider à chercher. Il y avait beaucoup d'homonymies, des Adler en particulier, c'est comme les Martins chez nous. J'ai trouvé quelques renseignements, mais pas tout. J'étais tellement pétrifiée, je voulais recopier, elle a été adorable, elle m'a permis de photocopier tout ce qu'elle avait trouvé. Donc j'avais des photocopies des fiches que j'ai gardées précieusement. Elle m'a parlé déjà, bien avant tout le monde, de la Shoah par balle. Mais ça m'a échappé, je ne m'en suis pas occupée tout de suite.
On parle de la Shoah par balle, notamment pour les Pays-Baltes.
C'est ça, c'est-à-dire que ma tante Erna, je l'ai appris parce que c'est une des premières fiches que j'ai eues, elle a fait partie du premier transport européen, Prague-Térésine, et elle est partie avec la meilleure amie de maman et de Térésine. 3 mois après, elles sont parties en janvier 1942 en Lettonie, et on n'a plus de nouvelles, on ne sait pas si c'était ça la spine, mais moi je me suis réveillée bien plus tard avec cette histoire des camps dans les pays baltes. Et puis après, j'ai tiré les fils et j'ai trouvé les fiches de la sœur de maman, de son mari, qui sont partis tous les deux à Izbica, un camp terrifiant dont parle Jan Karski.
qui était voilà. polonais, oui. Oui, et puis il y a eu un ouvrage récemment qui est sorti, qui est ressorti, et puis il y a eu toute une polémique avec Claude Lanzmann autour du roman.
Qui l'a corrigé ensuite, en fait, la polémique, c'est pas avec Yann Karski.
C'est avec Yannick Enel, bien sûr.
Voilà, c'est ça, mais moi, grâce à Yannick Enel, le rapport de Yann Karski intégral, avec des compléments d'historiens passionnants, est sorti, a été réédité en France. Et moi, j'ai appris comme ça beaucoup de choses, même sur la Pologne, dont je savais pas assez de choses et où j'avais des idées fausses sur ce pays.
Il faut rappeler quand même que vos recherches en tout et pour tout, à partir du moment, pas forcément à partir du moment où vous avez décidé en tant que jeune adolescente de vous lancer un jour dans ces recherches familiales, mais disons en gros à partir du moment où vous avez commencé vos recherches dans les années 70, s'étale en gros sur une trentaine d'années. Vous êtes revenu pour la dernière fois en 2008, en République tchèque désormais, puisque ce n'est
oui,
plus la Tchécoslovaquie.
La
Alors, quelles sont un peu finalement, après toutes ces recherches, puisque vous avez retrouvé évidemment bien d'autres personnes, également grâce au mémorial Yad Vashem, quelles sont un peu vos impressions après cette quête ininterrompue, et puis alors à la fois sur la République tchèque, sur la terre aussi de vos ancêtres, et puis finalement sur les résultats que vous avez obtenus.
Quand j'ai écrit ce livre, j'ai décidé d'écrire ce livre après tant d'années de recherche. Elle était double. La première, c'était de rendre leur honneur et d'honorer des êtres chers qui étaient disparus au nom d'un racisme fanatique et criminel. Et le deuxième, je me suis dit, avec ce livre, je vais pouvoir faire réintégrer dans la communauté humaine des êtres qu'on a voulu sortir de la communauté humaine uniquement par racisme, d'une façon un peu criminelle.
Et puis c'est faire revivre, les revivre pour d'autres personnes également, enfin pour ceux qui ne les ont pas connus, enfin nous lecteurs d'une certaine façon, qui pouvons découvrir aussi cette histoire-là.
Absolument. Et puis au départ, c'était pour ma famille parce que j'ai d'abord auto-édité ce livre. J'étais très surprise qu'un éditeur s'intéresse à mon livre et ensuite qu'il sorte. Et en plus, tout récemment, Jacques Fretsch, le directeur du mémorial de la Shoah à Paris, auquel mon éditeur avait envoyé mon livre, m'a envoyé une lettre absolument adorable en me disant « Mais écoutez, tout ce que vous racontez, avec tous les documents que vous avez, c'est transnational. » Accepteriez-vous de nous donner vos documents ? J'ai dit oui. Il m'a mis en contact avec la responsable de la photothèque du mémorial de la Shoah à Paris. Alors elle pensait qu'il y avait quelques photos, etc. Elle est restée 3 heures à la maison. Elle a dit, c'est pas une page qu'il faut faire, c'est créer un fonds. Et c'est un fonds à mon nom. Je suis heureuse. Vous ne pouvez pas savoir parce que j'ai donné tous les originaux. Je sais que personne ne s'en occupera après. Ça fait partie de la vie. Je sais pas comment expliquer ça. C'est pas parce que les gens s'en fichent ou la famille s'en fiche, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps, ils postent ça dans un coin. Surtout, c'est ouvert. J'ai décidé, ils m'ont dit, vous voulez l'ouvrir au grand public, aux chercheurs, aux historiens? J'ai dit oui, tout, parce qu'il ne faut pas que ça recommence. Je ne suis qu'un tout petit maillon dans la chaîne de l'histoire et de la lutte contre l'oubli. Voilà. Et ça, c'est très récent. Et donc, je suis très heureuse de ça.
Donc ça, c'est finalement une extension de votre travail. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, finalement, à partir de ces recherches des années 70, dans cette espèce de cartoteca, comme vous dites, ces archives quasiment glaçantes que vous avez décrites. Et puis finalement, cette ouverture vers le monde, enfin, c'est quasiment une espèce d'épiphanie par rapport
au début. Oui, vous avez raison, parce que pour moi... J'ose pas vous le dire, c'est pas la peine peut-être de me le faire, j'en sais rien. Pour moi, c'est mieux qu'un prix Nobel, que n'importe quoi, parce que je sais maintenant, je peux mourir tranquille, parce que je suis une vieille dame, mais je peux mourir tranquille, je sais qu'il y aura quelque chose qui restera pour la chaîne de l'histoire. Un tout petit maillon, parce qu'il y a tellement d'autres livres, il y a des milliers de livres au mémorial de la Shoah.
Anita Rindt, merci, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie beaucoup.
Voilà, c'est par cet entretien réalisé avec Anita Rindt que s'achève le programme de Radio Prague en langue française. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.